France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, en direct donc de la fête de l'UMA ce soir, avec à nos côtés un homme qui depuis près de 40 ans tente de faire entendre celles et ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Le romancier et cinéaste Gérard Mordilla vient de réaliser Mélancolie ouvrière, un film consacré à Lucie Beau, une syndicaliste inconnue que l'historienne Michel Perrault a fait sortir de l'ombre 100 ans après sa mort. Gérard Mordilla nous dira pourquoi il a tenu à lui redonner vie à l'écran. Avec lui, on parlera aussi de l'actualité de la semaine, une actualité très politique qui, on l'imagine, ne l'a pas laissé indifférent. On parlera du plan de lutte contre la pauvreté présenté hier par Emmanuel Macron. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'entendre un reportage de Valérie Dejean. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annie Crimbaud, les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir, quand la solidarité n'attend pas le nombre des années. On ira dans le Nord où des enfants se mobilisent pour ceux qui sont dans le besoin. À 19h20, au téléphone sonne, question sur les divisions à gauche, à 8 mois des européennes, alors que les députés de la France Insoumise ont décidé de boycotter le discours de Pierre Laurent ici même à la fête de l'UMA. Ils accusent le communiste Yann Brossa de les insulter, mais rassurez-vous, l'émission aura lieu malgré tout. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Gérard Mordilla.
Bonsoir.
Bienvenue à la fête de l'UMA. J'ai envie de dire bienvenue chez vous. Alors, c'est un petit peu chez vous la fête de l'UMA, Gérard Mordilla.
C'est un peu chez moi depuis quelques temps seulement, parce que longtemps, je ne suis pas venu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me disait rien. Puis d'un seul coup, un jour, je me suis dit quand même, il faut que j'y aille. J'y suis allé, depuis, j'y reviens régulièrement.
En tout cas, quand vous étiez petit, j'ai lu ça dans vos livres. On lisait l'Humanité chez vous, entre Belleville et Ménilmontant.
Ça, on lisait l'Humanité, c'est certain. Et on faisait les mots croisés, l'Humanité, surtout. C'était très important avec mon père de faire les mots croisés, puisqu'il y a eu cette chose merveilleuse qui a marqué mon enfance, puisque dans une définition des mots croisés, un dictateur dans l'Humanité, la réponse était Lénine. Alors,
comme quoi, hein ?
Mon père a cherché, ça ne pouvait pas être Lénine, donc on a essayé avec Franco, on a essayé avec Hitler, on a essayé avec Castro, ça ne marchait jamais, il était prêt à forcer l'orthographe pour que ça soit n'importe quoi sauf Lénine. Eh bien, c'était Lénine.
Et ben voilà. Gérard Mordilla, votre dernier film vient de sortir en DVD, je crois que c'est même aujourd'hui, c'est ça, qu'il sort en DVD. Il est passé sur Arte le mois dernier, il passe ici à la fête de l'UMA à 19h, son titre « Mélancolie ouvrière ». Alors, c'est un film consacré à Lucie Beau, une ouvrière du textile du Dauphiné qui était devenue syndicaliste, était à la toute fin du 19e siècle, début du 20e. Lucie Beau travaillait à la tisserie de Visil dans l'Isère, elle travaillait depuis l'enfance, sa vie a été tragique, elle s'est mariée, elle a eu deux enfants et très vite elle s'est retrouvée veuve. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez voulu faire ce film.
J'ai voulu faire ce film parce que lorsque j'ai lu l'essai de Michel Perrault...
L'historienne Michel Perrault,
qui
a raconté son histoire.
Au fond, j'ai reconnu là quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui appartenait au même monde que moi, au même type de pensée, qui était, sans exagérer, semblable à bien des personnages que j'ai écrits dans mes romans. J'avais l'impression de serrer la main à l'histoire et de rencontrer là quelqu'un dont l'histoire et la mienne se rejoignaient à travers le temps. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu envie de prendre le relais, au fond, de Michel Perrault, d'aider encore un peu plus à arracher Lucie Beau à l'oubli dans lequel elle était tombée. Parce que c'était vraiment une femme exceptionnelle, d'un courage incroyable, d'une grande intelligence, et qui réellement a voué sa vie aux autres. Sans chercher son propre intérêt, sans penser à son confort, sans penser à rien. Elle s'est entièrement battue pour que la condition des ouvrières dans les filatures soit transformée. Parce qu'il faut dire que les conditions de vie étaient atroces. On travaillait 14 heures par jour, été comme hiver.
Et ça, votre film le rappelle très bien. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à oublier quand même quelles étaient les conditions de travail à cette époque.
Les conditions, oui, étaient atroces, et d'autant plus atroces que c'était évidemment de façon quasiment majoritaire des ouvrières, donc un public féminin, donc soumis finalement au bon vouloir des chefs et des petits chefs. Et les histoires de viol étaient monnaie courante parce que simplement la vie de ces femmes dépendait du bon vouloir de ces hommes. À ça s'ajoutait, bien entendu, la difficulté même du travail et des salaires extrêmement bas. Je montre une scène qui est d'ailleurs, qui sort directement du mémoire de Lucie Beau, où le patron de la filature, arguant des modifications techniques qui facilitent le travail désormais, décide de baisser le salaire de moitié. Puisque c'est plus facile aujourd'hui, il n'y a pas de raison de vous payer autant.
Elles se mettent en grève.
Oui.
Ce qui n'était pas simple hein, quand même. Hein.
Ah ben non, parce qu'encore une fois, leur vie en dépendait. Ils étaient tellement dans une précarité énorme. Et surtout, la très grande intelligence de Lucie Beau, c'est qu'à ce moment-là, il y a dans ces filatures des travailleuses qui arrivent d'Italie, qui sont esclavagisées, on peut dire, parce que l'Église sert de sergents recruteurs, on va les chercher dans le Piémont, et on les fait travailler là comme des esclaves. Elles sont enfermées, elles sont sous la surveillance de bonnes sœurs, etc. La grande intelligence de Lucie Beau va être de convaincre les ouvrières françaises que ces femmes italiennes qui sont là pour augmenter les cadences, casser les prix et tout, mais leurs conditions...
Qu'elles ne sont pas les ennemis, mais c'est le même combat.
C'est le même combat. Et elle va réussir ça. Et ça, c'est une chose extraordinaire parce que on comprend qu'au départ, les ouvrières françaises sont très hostiles à celles qu'elles voient vraiment comme des jaunes, comme de terribles coins mis dans leur lutte. Eh bien non, elles vont réussir ça. Et ça, c'est évidemment exceptionnel.
Alors, Gérard Mandia, les femmes ont souvent le rôle principal dans vos... que ce soit dans vos romans ou dans vos films, beaucoup d'héroïnes en tout cas. Pourquoi ? Parce que la condition des femmes, vous y êtes particulièrement sensible ?
Oui, j'y suis particulièrement sensible. Peut-être dans une autre vie, j'étais une femme moi-même. Ah. Non, mais c'est vrai que je pense que la vraie condition tragique... Je pense toujours cette chose de René Dumont qui était si forte quand il disait « L'homme le plus pauvre du monde est une femme africaine ». Et je pense que c'est ça. Et moi, il y a une rencontre qui m'a beaucoup marqué il y a longtemps à Manchester, sur un trottoir dans un Barnum, une grande tente, il y avait des femmes, des mineurs anglais qui avaient mené éperdu cette longue grève contre Margaret Thatcher. Eh bien, ces femmes qui vendaient là des brochures et des petits gâteaux se battaient pour que la grève était perdue, mais ce n'était pas fini. Il fallait encore se battre, il fallait encore populariser le mouvement, il fallait encore dire que c'est eux qui avaient raison. Et cette rencontre qui, finalement, a peut-être duré 20 minutes dans ma vie, m'a si profondément impressionné que je crois que tous les personnages féminins de mes romans comme de mes films sont en fait les fantômes de ces femmes anglaises, qui n'étaient pas des mineurs, qui étaient les femmes des mineurs, leurs filles, leurs frères, leurs copines, leurs cousines, etc. Mais c'est elles qui étaient au bout du compte les plus combatives et les plus endurantes. Et ça, c'est une chose que j'admire énormément.
Alors, vous l'avez dit, hein, mais dans votre film, il y a cette question de l'abus du patron sur l'employé, sur la femme employée, le harcèlement sexuel, les viols. C'est quelque chose qui date d'il y a fort longtemps. C'est vrai que là, avec le mouvement MeToo, on en a plus parlé depuis un an. Moi, j'aimerais savoir quel regard vous portez, vous, sur ce mouvement qui est parti du milieu du cinéma américain, vous qui êtes cinéaste.
Oui, mais c'est très bien que ça soit parti du cinéma, tout simplement parce que le cinéma est un art très public et ça a permis finalement de faire exploser cette histoire, de la mettre en scène d'une certaine manière et de sentir comme ça que si ça existait à ce niveau-là, ça devait exister partout. Et je crois que ça, c'est la grande force de ce mouvement, c'est d'avoir libéré la parole des femmes qui sont victimes de ces harcèlements. Bon, dans ce que je décris dans les filatures, c'est pas monnaie courante, mais enfin, disons que c'était une pratique extrêmement connue. Et lorsque j'ai montré le film à Limoges, par exemple, dans la salle, des femmes m'ont toutes raconté que leur grand-mère, etc., racontait que dans les faïenceries, c'était exactement la même chose. À partir du moment où il n'y avait aucune loi sociale, il n'y avait aucun moyen de défense des ouvrières et qu'elles étaient à la merci de la décision d'un chef d'atelier ou d'un contremaître, s'il disait « fous le camp », elle était virée. Il n'y avait pas d'indemnité, il n'y avait rien. Et en plus, elle était marquée comme de la honte, d'une certaine manière, et sans parler des difficultés dans lesquelles se trouvait sa famille. Bien, cette situation, et moi, c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu et beaucoup touché dans les travaux de Michel Perrault et finalement dans le mémoire de Lucie Beau, c'est à quel point, et c'est un côté effrayant, ces questions sont encore nos questions aujourd'hui. C'est-à-dire les questions des travailleuses immigrées, les questions du salaire, les questions de la durée du temps de travail, la question du harcèlement sexuel.
Comment on fait vivre sa famille quand il y a les enfants à la maison, le temps que ça prend de, voilà, de militer comme syndicaliste. Il y a tout ça dans le film.
Tout simplement, de façon plus large, la place des femmes. Il y a cette scène incroyable qui est dans le mémoire de Lucie Beau, où Lucie Beau, élue déléguée des filatures, va au congrès syndical de 1904 de Reims, on la fait monter sur scène, on la fait applaudir, et puis au moment où elle va parler, on lui dit « Asseyez-vous !» Et on la fait asseoir en bout de table comme si c'était un pot de fleurs, et on ne lui donne jamais la
parole. Parce que les autres sont des hommes, c'est ça la raison, faut quand même le dire.
Il n'y a que 60, voilà, il n'y a que des hommes. Et donc, ben, on est encore dans cette situation-là aujourd'hui. Les discussions sur l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, ça devrait être réglé depuis très longtemps. Les places de direction assumées par des femmes, ça devrait être réglé depuis très longtemps.
Et on en est toujours. Bah oui, ben ça c'est sûr. Mélancolie ouvrière avec Virginie Ledoyen et Philippe Doreton, et même notre François Morel, hein, que j'ai aperçu dans le film.
Chantant sa branle dans le manche.
Oui. Voilà, c'est à voir à 19h ici même à la fête de l'UMA, et donc en DVD. On va passer maintenant, Gérard Mordia, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Marie-Annick Rimbaud. Une semaine très politique avec la Macronie qui se replie sur ses bases. Mais on commence avec les marches pour le climat du week-end dernier. Elles ont réuni beaucoup de monde 10 jours après la démission de Nicolas Hulot.
Nous, on est la future génération, en fait. Donc, c'est nous qui allons nous occuper des futurs problèmes.
C'est nous qui allons hériter. Du coup, faut que ça change.
Et on n'a pas de deuxième planète, en fait.
Changez !
100 000 manifestants dans les rues samedi dernier pour le climat du jamais vu en France. Sans doute un effet Hulot. Mais lundi matin, fini la récré. Les gendarmes passent à l'action pour déloger les opposants au grand contournement ouest de Strasbourg. Le maire de Kolbsheim fait partie de ceux qui ont eu droit à leur dose de gaz lacrymogène.
On gaze les élus de la République maintenant. Donc c'est la nouvelle France, c'est la nouvelle République. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier.
Un nouveau président pour l'Assemblée nationale. Sans surprise, c'est Richard Ferrand qui s'installe au perchoir après avoir été désigné par le groupe majoritaire. Au diable, l'affaire des mutuelles de Bretagne.
Monsieur Richard Ferrand, 254 voix.
Il y avait un choix entre 4 personnalités, 2 femmes, 2 hommes. Le choix s'est porté sur moi, vous me pardonnerez de ne pas être une dame.
Va pour un homme, mais surtout pour un ami de la première heure. Normal, dit Christophe Castaner.
Vous savez, dans la politique, l'histoire, elle se fait avec celles et ceux qui vous ont accompagné.
Le noyau dur des macronistes au poste clé reste le Sénat, devenu le principal bastion de l'opposition, au grand dam de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
Je regrette une chose, c'est que au Sénat, la commission d'enquête parlementaire ne soit pas, comment dire, présidée par quelqu'un qui puisse venir de La République En Marche.
Ben oui, c'est embêtant qu'il y ait encore des opposants dans ce pays. Surtout quand ces rebelles de sénateurs et de droite et de gauche travaillent main dans la main. Le socialiste Jean-Pierre Sueur a su trouver des arguments, lui, pour convaincre Alexandre Benalla de venir.
Il devra venir parce que c'est la loi. Tous les citoyens doivent déférer à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire.
La garde des Sceaux aurait pu rester neutre dans cette affaire. Mais non, Nicole Belloubet, elle aussi, crie à la manipulation.
Personne n'est dupe de ce qui se passe, de l'instrumentalisation, de ce qui est tout de même une dérive au départ personnelle.
Une rencontre qui a beaucoup fait causer le week-end dernier à Marseille. Rencontre entre le président Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui s'est fait doux comme un agneau.
Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi.
Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble.
Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron.
Non.
Si, vous l'avez dit.
Je l'ai dit.
Non, ça m'étonnerait.
Il l'a dit.
Vous pouvez pas le croire.
Non.
Bon, voilà. Peut-être une légère exagération marseillaise.
Je te fais de la peine.
Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie.
Tu me fends le cœur, hein?
Oh.
Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Alors, je ne joue plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors.
Un geste fort de la part du président Macron cette semaine, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, militant communiste, mort sous la torture des généraux pendant la guerre d'Algérie, le mathématicien Cédric Villani sur France Inter.
Emmanuel Macron, et pour moi c'est historique, va reconnaître la responsabilité de l'État dans cette disparition.
C'était à une époque où l'on ne parlait pas de migrants ni de musulmans, c'était dans les années 80. Le chanteur Rachid Tahan, né en Algérie, avait su trouver les mots avec son groupe Carte de Séjour pour réconcilier d'une certaine façon les deux bords de la Méditerranée. Il vient de mourir à 59 ans.
Il revient à ma mémoire des souvenirs périlés. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole. Vieilles chansons d'autrefois.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'amour.
Rachida, qui devait être inhumé aujourd'hui en Algérie, il s'apprêtait à sortir un nouvel album. Gérard Romandy, un commentaire sur l'actualité de la semaine?
La chose qui m'a... Il y a trois choses qui m'ont vraiment marqué. La question du climat, la question est essentielle. Je suis en train de préparer une nouvelle série sur les concepts fondamentaux de l'économie. Et tous les économistes que j'ai pu rencontrer aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, tous disent que la seule discussion qui va animer le monde pendant trois ans, dans les trois ans qui viennent, c'est la question de la croissance, donc la question de la crise climatique, donc de la crise écologique et donc de la remise en cause du système capitaliste. Et ceux qui disent ça ne sont pas des gauchistes, des couteaux entre les dents, sont des professeurs à Harvard, des professeurs à Humboldt en Allemagne, etc. Donc je crois que ça, c'est très important. J'entendais l'autre fois Isabelle Autissier, peut-être sur France Inter.
C'est fort possible.
Sur France Inter, expliquer que la Méditerranée est d'ores et déjà une mer morte, qu'il n'y a plus poisson, qu'il n'y a plus un seul poisson qui ne soit pas gorgé de mercure, de plomb, de plastique, etc. C'est effrayant. J'ai entendu aussi qu'on était obligé de remettre des huîtres dans la mer du Nord puisqu'il n'y a plus un seul, coquillage dans la mer du Nord. Et les marins bretons ont beaucoup de mal à faire vivre les huîtres qui n'arrivent plus à faire leurs coquilles à cause de la pollution. Donc je crois que cette chose-là, c'est ce que dit très bien le petit garçon ou la petite fille, je n'ai pas bien identifié, c'est évidemment...
On n'a pas d'autre planète.
Voilà, c'est ce qui les attend. C'est ce qui les attend. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment une chose incroyable. La deuxième chose, évidemment, qui est marquante, eh bien, c'est l'espèce de vaudeville macronesque avec et l'élection de M. Ferrand qui est nommé directement par le président. On se demande même pourquoi il faut l'élire. Et puis ces attaques contre le Sénat qui veulent simplement écouter un des témoins importants, puisque c'est M. Benalla lui-même, le célèbre boxeur de M. Macron. Donc on voit là aussi le mépris qui s'exprime vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la loi, et comment la défense qui s'organise est une défense qui cherche à disqualifier toute force d'opposition. Ça, c'est une chose très importante. Et je crois que c'est vrai que le grand événement, en tout cas pour moi, ça a été la reconnaissance par M. Macron de la responsabilité de l'État français dans l'assassinat de Maurice Audin. Ça restera pour toujours à son crédit, parce que les autres ont été d'une lâcheté exemplaire. Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Chirac, tous ont fait « regardons ailleurs ». Alors que on connaît depuis très longtemps le nom de ceux qui étaient ces assassins, comment ça s'est passé. Le général Ossarès en parlait, mais sans détour, et expliquait très bien les ordres qu'il avait donnés, ce qu'il avait fait. Donc, il y avait quelque chose à passer, un cap à passer. Bien entendu, l'armée française a torturé, la République française a assassiné Maurice Sondin comme bien d'autres. Et je me souviens ici, à la fête de l'UMA, avoir déjeuné une fois avec Henri Allègue, l'auteur de la question, qui était dans la cellule à côté de Maurice Sondin, et je trouvais ça à la fois incroyablement émouvant et terrible d'avoir en face de moi ce petit homme souriant, tellement charmant, et de penser, en me souvenant de la question, par quoi il était passé et par qui il avait été torturé. Mais c'est vrai que la guerre d'Algérie demeure aujourd'hui un des grands secrets de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire d'Algérie. Parce que au silence des Français répond le silence algérien. Et par exemple, on n'est pas prêt de voir un film qui explique comment le FLN a zigouillé tout le MLA, etc. C'est pareil, ça va de même de pair. Et je crois qu'au fond, en ouvrant la porte avec Maurice Sondin, peut-être enfin va-t-on pouvoir faire une véritable histoire de cette guerre qui a été une guerre terrible. D'autant plus terrible pour les Français que non seulement c'était une guerre honteuse, mais que ça a été une guerre perdue.
Gérard Mandia, outre ce geste concernant Maurice Sondin, hier, Emmanuel Macron a présenté un plan de lutte contre la pauvreté, c'est aussi dans l'actualité de la semaine. Il a dit pour ne pas oublier les derniers de cordée, c'est lui qui l'a dit. Il faut dire qu'il y a 9 millions de pauvres en France, des personnes qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, parfois uniquement avec le RSA. Et dans ces conditions difficiles de se loger, de se nourrir, de se soigner, parmi les mesures qui ont été présentées hier, une extension de la CMU complémentaire, quand on sait ce que coûtent certains soins, c'est pas du luxe. Confirmation avec ce bref reportage de Valérie Dejean de France Bleu Périgord.
Patricia a bientôt 60 ans et un large sourire, mais pendant plus d'un an, ses lèvres sont restées bien fermées sur sa misère et son secret. Pas de couverture maladie universelle. Et pas assez d'argent pour cacher le trou noir sous sa gencive.
J'ai mis du temps, hein. Ça vient juste d'être fait là, il y a quoi, 3 mois que c'est fait.
Et vous êtes resté sans dents donc, avec un trou devant?
Avec un trou tout le temps quoi. Donc c'était pas beau, et puis même pour les enfants, quand tu veux rigoler, il faut mettre la main devant la bouche. Quand tu voulais parler, c'était pas évident quoi. Les dents, bon, on a attendu un peu quoi, parce que bon, ben, ça coûtait un peu cher, parce que bon, les opérations, j'aurais pas pu... les payer comme ça, quoi.
Désormais éligible à la CMU, elle a retrouvé des dents et un beau sourire. Michel, 60 ans, diabétique, a lui aussi renoncé à se faire soigner pendant longtemps.
J'allais moins souvent au docteur, tout. Là, il n'y a pas longtemps, là, j'avais un morceau d'éclat de cuisinière en fonte planté dans mon genou. Je n'ai pas fait soigner, je me suis soigné tout seul, comme ça, et puis bon. Mais c'est dur, hein. En ce moment, je ne sais pas où c'est qu'on va, mais on va dans le gouffre, je crois.
Face au gouffre, il continue de sourire. Employé pour quelques heures encore par le Secours Populaire, mais son contrat aidé s'arrête aujourd'hui.
Reportage de Valérie Dejean. Gérard Mandia, ce reportage, c'est un petit peu pour vous que je l'ai programmé, parce que vous reprochez peut-être un peu souvent aux médias aussi de ne pas toujours faire entendre les plus pauvres. On ne les entend pas forcément dans les médias. Vous le pensez toujours ?
Je le pense d'autant que lorsqu'on les entend, c'est souvent sur le mode compassionnel. Et ça me fait toujours penser à ce passage de Lucrèce dans La nature des choses, quand il explique combien il est agréable de voir un naufrage quand on est soi-même sur la falaise. Donc je crois que c'est ça, parce que le problème des gens les plus pauvres, c'est au fond ce qu'il faut faire, c'est de remettre en cause le système qui permet cette pauvreté. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui une femme ou un homme peut gagner en 10 minutes ce qu'un autre ne gagnera jamais en une vie de travail. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, à cette répartition des richesses à la nation, on pourra toujours, au fond, faire la mendicité aux pauvres. Mais ça, c'est pour se donner à soi-même un beau rôle. Mais c'est pas un rôle acceptable. Moi, je pense, tant qu'on n'aura pas pris des mesures extrêmement fortes pour abaisser de façon très importante le temps de travail et, en même temps, d'augmenter les salaires, eh bien, on restera dans ce système où la pauvreté sert finalement à montrer ceux qui sont des nantis comme des personnes extrêmement charitables et généreuses. Vous savez, il y avait au 19e siècle une chose qui s'appelait la donne. La donne, c'était les bourgeois qui, une fois par mois, devant chez eux, donnaient de la soupe aux pauvres. Devant chez eux, ils donnaient de la soupe aux pauvres. Ce qui était important, c'était pas de donner... c'était de se montrer donnant. Et donc, dans ce geste-là, il y a quelque chose de toujours humiliant. Et je crois que pour lutter contre la pauvreté, eh bien, et pour lutter pour la dignité des personnes, c'est leur donner aux uns et aux autres les moyens d'assumer ce qu'ils ont de nécessaire à leur vie. Or, aujourd'hui, on voit que la destruction généralisée des emplois écarte du monde de population de plus en plus grande et que pour redonner à chacun peut-être un travail, mais en tout cas le sentiment de participer à l'effort commun de la nation, eh bien, il faut arriver à des semaines de 20 heures et contraindre les entreprises à embaucher et embaucher encore. Non pas parce qu'il y aura une dimension morale au travail, mais simplement parce que chaque individu peut avoir ainsi le sentiment de travailler pour le bien commun. Or, l'idée du bien commun est une idée absolument combattue par M. Macron et ceux qui le soutiennent, qui ne défendent que l'intérêt privé. Et tant qu'on défendra l'intérêt privé, eh bien les pauvres seront réduits au rôle de pauvres qui font joli dans le décor.
Gérard Mordilla, un petit mot de politique quand même. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, une grande partie des classes populaires se tournent vers l'extrême droite? C'est quand même ce qu'on a vu aux dernières élections présidentielles, mais déjà avant aussi aux européennes, dont on va parler tout à l'heure.
Oui, mais parce que je crois que c'est le témoignage finalement d'une forme de désespoir. Parce que devant l'incapacité des forces de gauche à parler d'une seule voix, finalement, on se dit que oui, pourquoi pas, on se réfugie dans ce qu'est le nationalisme. On se dit que le nationalisme, eh bien, ça va nous défendre, ça va prendre notre part. Mais je crois que c'est une vue de l'esprit. Et on voit bien que lorsqu'on fait une pédagogie nécessaire, je prendrai l'exemple formidable de François Ruffin, qui fait campagne dans une circonscription où le Front National faisait 45% des voix.
Donc,
À Amiens. Et François Ruffin fait campagne, va à la rencontre des gens qui sont tous des électeurs du Front National. Et il leur explique pourquoi il ne faut pas voter pour ça, pourquoi il y a une autre façon de penser le monde, comment justement là aussi il y a une solidarité nécessaire entre toutes les classes et les classes les plus pauvres en premier. Eh bien, faisant cette pédagogie, il l'emporte et haut la main une élection qui était donnée comme offerte au Front National, puisqu'ils avaient même choisi comme candidat une sorte de clown qui s'est perdu dans cette histoire. Donc vous voyez, je crois qu'il y a ça. Et quand on dit aussi que les classes populaires se tournent vers le Front National, je crois qu'il faut un peu nuancer, parce que, par exemple, Emmanuel Todd a bien montré que dans ces classes populaires, c'était les couches les plus jeunes, que les plus vieux demeuraient fidèles à d'autres types d'idéaux. Les plus jeunes qui n'ont peut-être pas en tête ce qu'est le fascisme ou ce qu'est le nazisme ou ce qu'est tout simplement une dictature militaire se disent « oui, ça va être... » Il y a cette image d'un seul coup du chef victorieux qui peut en séduire certains. Voilà, moi je crois beaucoup à la culture, je crois beaucoup à l'éducation populaire, et je crois que c'est ça, c'est évidemment par l'intelligence qu'on combattra le néofascisme et le fascisme.
Alors on va poursuivre notre réflexion sur tous ces sujets tout à l'heure, mais tout d'abord un groupe qui est en concert ce soir à la fête de l'UMA, Soviet Suprême, et, ouais, et la chanson c'est Vladimir.
Nicolas, Yaroslav, Saint Daniel, Vassili, Vladimir, Dimitri, Olga, Igor, Fedor, Ivan, Yuri, Tsar Boris, Irina, Mikhail, Ladislas, Alexei, Simeon, Pyotr, Alexander, Katerina, Vladimir. Chef
Léane et Boris, Nikita, Yuri, Vladimir.
De Soviet Suprême, extrait de l'album Marx Attaque. Pas mal, hein, Gérard?
Pas mal. Oui.
Ah ouais, ça vous plaît. J'ai bien vu que ça vous plaisait. Ce soir, donc, à la fête de l'Huma, à 23h30, vous pourrez y aller tout à l'heure. Ce sera après la présentation de votre film. Gérard Mandy, d'où vous vient ce côté rebelle et militant qui vous caractérise? C'est vos origines?
Oui, c'est mes origines. Plutôt que rebelle, je pense réfractaire, c'est-à-dire comme la brique réfractaire, à la fois dure et chaud, voilà, c'est plutôt moi. Militant, j'hésite toujours, parce que on milite pour un parti, on milite pour un syndicat, on milite pour une organisation. Or, je n'ai jamais été affilié à quelque organisation que ce soit, fidèle au fond à une tradition familiale, plutôt anarcho-syndicaliste.
Vous avez quand même été candidat, j'ai vu, aux européennes, il y a 10 ans, sur la liste du Front de Gauche.
Oui, j'ai été candidat, j'ai servi de pot de fleurs à la fin parce que c'était très bien et que Francis Wurtz m'a demandé et que c'est un homme que j'aime beaucoup. J'ai dit, mais très bien, je vais faire le pot de fleurs, ça sera magnifique, je serai l'ornement de cette liste.
Sinon, vous venez d'un milieu populaire, votre père était serrurier à la SNCF, c'est ça, votre mère prof d'anglais chez Berlitz, elle était américaine, votre...
Oui, ma mère était, enfin, d'une famille belge immigrée et devenue américaine, voilà, et elle était enseigner l'anglais chez Berlitz. Alors le titre est formidable, professeur d'anglais, le salaire ne l'était pas. Donc, mon père travaillait à la SNCF, mais tout ça était aussi, ils étaient aussi des lecteurs, et c'était très important. C'est-à-dire que non seulement nous lisions le journal tous les jours, mais on lisait aussi beaucoup à la maison. On allait beaucoup au cinéma, et on écoutait Signé Furax à la radio.
Et vous lisiez beaucoup. J'ai vu que vous aviez fait un concours avec un copain quand vous étiez à l'école, un livre par jour. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec l'école, parce que quand on lit beaucoup, on est bon élève quand même.
Mais j'étais très bon élève, mais c'est pour ça que j'ai quitté l'école, parce que dans ce qui me paraissait la chose importante, et c'était de gagner ma vie. Et donc on pensait que ceux qui continuaient de faire des études, c'est ceux qui étaient trop bêtes pour gagner leur vie. Et donc ils pouvaient, eux, rester à l'école et végéter, alors que nous allions directement nous affronter au monde du travail. Parce que je crois que c'était ça la chose qui nous donnait une place dans la société. C'était de ramener sa paye, comme on disait. Je crois que ça a été...
C'est comme ça que vous êtes devenu ouvrier imprimeur.
Voilà, j'ai été ouvrier imprimeur, et puis d'ouvrier imprimeur, j'ai publié des livres, et puis j'ai fait des films, et donc j'ai fait le parcours complet de l'imprimerie.
Vous avez fait des films, il y a eu des rencontres très importantes, impossible de citer tout ce que vous avez fait, vous avez fait tas de choses. Moi, j'aimerais qu'on dise un petit mot de la religion à laquelle vous vous êtes beaucoup intéressé, parce qu'il y a eu cette semaine encore un brusque regain de tension autour de la question de la langue arabe. Le ministre de l'Éducation nationale avait évoqué une possible initiation à l'arabe à l'école primaire, et immédiatement, certains ont parlé d'islamisation de la France. Ça veut dire quoi, Gérard Mordillac, qu'il y a des peurs? Comment on lutte contre ça? Par l'éducation
Oui, on lutte par l'éducation. Vous avez dit qu'on s'est intéressé avec Jérôme Prieur à la religion. Je dirais plus précisément que nous nous sommes intéressés à la littérature chrétienne, juive et à la littérature musulmane. Et justement, pourquoi j'insiste sur la littérature? Parce que dans tous ces domaines, on a pu le constater dans de très nombreux débats que nous avons faits, aussi bien avec des publics chrétiens, entre guillemets, ou des publics musulmans, il y a une inculture, un manque de savoir, un manque de connaissance des textes qui est effrayant. Et quand on s'effraie de l'arabe, c'est ridicule, parce que alors on devrait s'effrayer aussi de l'américain, parce que dans les grands tueurs du monde, il y a quand même l'Amérique. On pourrait s'effrayer de beaucoup de langues. Et je crois que, au contraire, essayer d'approcher une langue, c'est aussi toucher du doigt ce qu'est le secret d'un pays, ce qu'est le secret d'un peuple. Et lorsqu'on entend, par exemple, lire le Coran par quelqu'un qui sait très bien le lire, on entend une musique extraordinaire, même sans rien comprendre. Et donc je crois que cette idée d'avoir un ostracisme vis-à-vis des langues est une idée tout simplement stupide.
Gérard Bordillat, on va être obligé de vous laisser partir un petit peu avant la fin de cette émission pour que vous puissiez aller présenter votre film à 19h pétante ici à la fête de l'Humain, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Je voudrais quand même que vous me disiez si vous avez d'autres projets prochainement en magasin.
Là, on a une chose qui nous tient beaucoup à cœur, Jérôme Prieur et moi. Nous publions une bande dessinée sur le Suaire de Turin. C'est le tome 2 qui paraît là, qui est dessiné par Eric Libert. Chez notre grande fierté, c'est à travers la BD et grâce au talent d'Eric Libert, j'ai pas d'autre mot, c'est de faire un vrai travail historico-critique. Pourquoi le Suaire ? Bien parce que le Suaire est peint en France au XIVe siècle, photographié en Italie à la fin du XIXe, et qu'au XXIe, on peut en faire un film. Donc, nous parlons de la peinture, de la photo et du cinéma. Et puis, je commence début octobre une nouvelle série avec Bertrand Rotet sur l'économie. Nous allons étudier les concepts fondamentaux de l'économie. Le travail, le salaire, le marché, l'État, la croissance et le profit ou le capitalisme. Uniquement avec des chercheurs.
Toujours cette volonté de partir chercher les explications à la racine chez vous.
Oui, toujours partir du texte. J'étais, je crois, très impressionné, et je le suis toujours, par le texte inaugural des cours de Michel Foucault au Collège de France, qui s'appelait « L'ordre du discours », où, je simplifie et je résume, Michel Foucault écrivait que le discours est par excellence le lieu où se mesurent les enjeux du pouvoir. Eh bien, tous les travaux que j'ai faits sont dans cette perspective.
Grand merci, Gérard Mordillat, d'être venu sur France Inter ce soir. Votre film, donc, en DVD, et à 19h, ici même, à la fête de l'Humain, Mélancolie ouvrière. C'est vraiment à voir, c'est un très beau film. Merci mille fois. Merci à vous. Je vous libère tout de suite avant les bonnes ondes de Sandrine Houdin, parce que comme tous les vendredis soirs, il y a les bonnes ondes aussi ce soir. Ce soir, direction Ronchin, dans le Nord, où des enfants n'ont pas attendu d'être grands pour s'engager contre la pauvreté. Tout est parti du petit Victor, qui en avait un petit peu assez de prêter ses affaires à l'école. Il a décidé de monter une association de collecte de fournitures scolaires pour ses camarades dans le besoin. Sa maman lui a donné un coup de main. Ensuite, quatre copines l'ont rejoint. Depuis, l'association Feutre et compagnie a réussi à récupérer plus d'une tonne et demie de fournitures. Ce soir, grâce à Sandrine Houdin, rencontre avec Victor, Samantha et Lilia.
Victor, tu peux me donner les surlignes ?
Ok.
T'as les crayons là ?
Oui.
Attends, celui-là, il y a plus à faire.
Qu'est-ce que vous triez ? Il y a quoi là ?
Bah, en fait, on trie toutes les fournitures dans plusieurs cartons.
Par exemple, les carnets avec les carnets. Cahiers aussi.
Alors là, vous avez donné à qui en fait ?
Saint-Martin, Maroc, Tunisie et Europe de l'Est. Et bientôt le Sénégal.
Ah oui, ça fait pas mal quand même.
Oui.
Le comble, c'est que sa maman n'a rien vu venir.
C'est vrai qu'il nous demandait régulièrement de la colle, des stylos, etc. Au point où nous, on se disait que soit il était vraiment très étourdi, soit limite, il se faisait piquer ses fournitures. Et puis, un jour, en mettant le goûter dans le sac, je vois un petit papier marqué « Feutre et compagnie, ne jetez plus vos stylos, pensez à ceux qui n'en ont pas ». Donc c'est là où je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que c'est ?» et qu'il m'a expliqué qu'il avait créé une association parce que il y avait des parents qui n'arrivaient pas à racheter de tubes de colle quand ils n'en avaient plus et qu'il fallait bien que quelqu'un les aide.
Tu avais créé ton association tout seul à 9 ans ?
Oui. Un club des 5.
Oui. Vous vous rendez compte que c'est rare de créer une association à votre âge ?
Ouais, c'est rare. Je crois qu'on est les premiers.
Comme ça se met où ?
Ça se met ici. On est content de faire ça.
Pourquoi on est content de faire ça ?
Pour aider des gens. C'est beaucoup de boulot, mais vu qu'on est ensemble, ça va.
Vous préférez pas jouer, faire autre chose ?
Ben, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, ça je vais pas me mentir.
En même temps, ça fait toujours plaisir d'aider les autres.
Pas rester les mains dans les poches, quoi.
Oui, voilà. Notre cœur, là, il s'est agrandi.
Il était comment ton cœur avant ?
Bah, c'était un cœur bleu.
Ça veut dire quoi ?
J'étais triste. Maintenant, je suis heureuse.
Tu ne te doutais pas qu'il y avait autant d'enfants qui avaient besoin ?
Non.
Toi aussi, c'est pareil ?
Oui.
Je pensais que tout le monde avait assez de fournitures pour l'école.
C'était la belle vie, en fait, que tout le monde avait des fournitures. Donc là, quand on se rend compte qu'ils n'avaient pas les fournitures, heureusement qu'on a fait ça.
Parce que c'est pas les petits copains qui se seraient plaints.
Ils ne disent pas, ils ont peur d'avoir honte. C'est surtout au niveau de la rentrée qu'on a le plus honte.
L'année dernière, moi, il y avait quelqu'un en fait qui n'avait pas sa colle et il voulait pas le demander. Quand je vois qu'il y a ça, je suis un peu émue.
Est-ce que ça t'a étonné surtout que autant de personnes donnent des affaires?
Ouais.
Maintenant, on est en train d'envahir le garage, mais là, on est à presque 1300 personnes sur Facebook. On en est à 1700 kilos de fournitures. Il y a des gens qui sonnent, qu'on connaît pas, qui nous ramènent des cartons.
Et c'est pas vous qui êtes derrière, c'est pas vous qui les poussez, c'est eux qui vous tirent.
Ah non, c'est leur idée. Quand on réfléchit à qui on pourrait donner, c'est à eux qu'on demande. En fin d'année scolaire, on nous a proposé de donner au Sénégal, au niveau de notre école de musique. Le directeur de musique, c'est pas moi qui l'est allé voir en premier, c'est Victor. Et donc après, il est venu me voir en disant, tiens, j'ai parlé à Victor.
C'est vous qui menez les adultes, en fait.
Oui.
Et à ce propos, Emmanuel Macron est prié de se bouger.
Le président, il y a des autres choses à faire, mais ce serait bien un peu qu'il nous aide, parce que pour l'instant, pour nous aider, il n'y a rien fait.
Et à ça que c'est un peu compliqué.
Donc c'est ça que tu voudrais lui demander, Emmanuel Macron?
Oui, d'aider les enfants.
On fait le cri de guerre.
Votre compagnie, c'est la vie.
Oh yeah.
Un reportage de Sandrine Houdin. Toutes les infos sur cette super association sur la page Facebook de Feutre et compagnie. Sachez sinon que France Inter sera encore là demain à la fête de l'Huma à 16h. Avec l'émission Comme un bruit qui court. Ce soir, toujours ici à la fête de l'Huma, concert de Guillaume Meurice avec The Disruptive. Ça, je vous assure que c'est à ne pas manquer. De toute façon, on se retrouve après le journal de 19h pour le téléphone sonne, qui sera consacré ce soir aux divisions à gauche. On se demandera si les différentes listes ont raison d'aller aux européennes en ordre dispersé, si la gauche est vraiment irréconciliable. Vous pouvez participer à cette émission en appelant le standard du téléphone sonne au 01 45 24 7000.